le gouvernement, le Congrès, ils doivent faire quelque chose. Ça laisse des familles détruites.
Julio, lui, est chauffeur de bus depuis 40 ans et sort tous les jours avec la peur de ne pas rentrer le soir chez lui. Il veut du concret.
Il tue des innocents tous les jours. Alors qu'on remette la peine de mort. Il nous faudrait quelqu'un comme Bukele, le président du Salvador, pas ce gouvernement qui ne fait rien.
Le nom de Nayib Bukele est écrit sur de nombreuses pancartes dans la manifestation. C'est un vrai symbole dans la lutte contre la délinquance pour les Péruviens. Et ce, même si le respect des droits humains de ces méthodes est remis en question. Martin Chabal, pour Radio Vatican, à Lima.
Et puis on termine ce journal à Brasilia. Auprès de 200 organisations indigènes et environnementales du monde entier ont demandé hier à la présidence brésilienne de la COP30 de s'engager à mettre fin aux énergies fossiles. Lors d'une réunion des peuples indigènes des Amériques et d'Océanie à Brasilia, les ONG ont remis une lettre à la présidence de la conférence sur le changement climatique prévue en novembre au Brésil, l'exhortant à soutenir les appels à bloquer les nouveaux projets d'exploitation pétrolière. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute et votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. Le journal en langue française revient à 18h, heure de Rome. Vous serez en compagnie de Marie Duhamel. Belle après-midi à toutes et à tous en attendant.
KTO Radio. KTO Radio présente à haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson.
Chapitre 5. Percy Franklin, le nouveau cardinal protecteur d'Angleterre, sortant d'une audience de sa sainteté, suivait le corridor des appartements pontificaux, en compagnie de son collègue allemand, le vénérable Hans Stemann, tout essoufflé au moindre mouvement. Ils entrèrent dans l'ascenseur et descendirent au rez-de-chaussée. Imposante figure de prêtre, et bien représentative de leur race, l'un droit, maigre et d'apparence un peu raide, l'autre gras et voûté, avec la marque allemande depuis ses lunettes jusqu'à ses larges pieds, sous de lourdes boucles d'argent. Parvenu à la porte de ses bureaux, Percy s'arrêta, fit un geste profond de révérence et laissa son compagnon poursuivre son chemin. Un secrétaire, le jeune Monsieur Brent, s'avança vers son chef. « Éminence, dit-il, les papiers anglais sont arrivés. » Percy étendit la main, prit la liasse de papier, puis se dirigea vers son cabinet et s'assit. Dans le journal, qu'il ouvrit d'abord, ses yeux furent aussitôt frappés de titres gigantesques, au-dessous desquels les épaisses colonnes du texte étaient interrompues, de temps à autre, par d'autres titres sensationnels en lettres capitales. D'après une mode créée par l'Amérique, il y avait plus d'un siècle, et qui depuis lors avait toujours paru la façon la plus efficace de fournir des renseignements, rapide et inexact à l'intelligence du public. Le journal était l'édition anglaise de L'Air et les titres disaient « Le culte national, splendeur éblouissante, enthousiasme religieux, le dieu nouveau dans l'abbaye de Westminster, un fanatique catholique, d'ex-prêtre faisant fonction de cérémonière. » Puis le cardinal, en parcourant le corps de l'article écrit en petites phrases pittoresques, se composa par degrés une sorte de tableau impressionniste des scènes qui avaient eu lieu à l'abbaye le jour précédent et dont les points principaux lui avaient été annoncés déjà par le télégraphe. En fait, le compte-rendu détaillé ne lui apprenait rien de nouveau qui eût une importance réelle. Et déjà, il allait replier le journal lorsqu'un nom le frappa. L'auteur de l'article écrivait « Il est convenu que M. Francis, le grand cérémoniaire, à qui nous devons tous la plus vive reconnaissance pour son zèle pieux et l'habileté professionnelle qu'il a déployée, doit prochainement se rendre dans les villes du Nord pour faire des conférences sur le nouveau rituel. N'est-il pas curieux de songer que cet éminent fonctionnaire, tout récemment encore, officiait devant un hôtel catholique. Il a été assisté aujourd'hui par 24 confrères qui tous avaient acquis leur expérience de la même façon que lui. « Mon Dieu !» soupira Percy, s'abandonnant au flot des souvenirs que la mention du nom de Francis avait tout d'un coup réveillé en lui. Mais bientôt sa pensée se détourna du prêtre renégat pour réfléchir une fois de plus à la signification de l'affaire tout entière et au jugement qu'il avait cru devoir porter sur elle tout à l'heure devant le souverain pontife. En somme, c'était un fait incontestable que l'inauguration du culte panthéiste avait obtenu un succès aussi prodigieux en Angleterre qu'en Allemagne. À Londres, par exemple, contrairement aux prévisions, la cérémonie s'était effectuée sans l'ombre d'emphase exagérée ni de ridicule. Cependant, des scènes extraordinaires avaient eu lieu. Un grand murmure d'enthousiasme avait parcouru l'abbaye, d'une extrémité à l'autre, lorsque le somptueux rideau était tombé et que la grande figure nue de la paternité, imposante et majestueuse, s'était dressée au-dessus de l'éclat des cierges, contre l'écran pourpre qui lui servait de fond. Le sculpteur Markenheim avait parfaitement réussi dans son œuvre, et un discours passionné de M. Brandt, d'autre part, avait fort bien préparé l'âme populaire à la révélation qui allait lui être faite. L'orateur avait cité, dans sa péroraison, de nombreux passages des prophètes hébreux, annonçant la cité de paix, dont les murs s'élevaient à présent devant les yeux de tous. « Surgis et brille, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur est apparue sur toi. Car voici que je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et de ceux qui ont précédé, l'esprit de l'homme en perdra jusqu'au souvenir. On n'entendra plus parler de violence dans ton royaume, ni de destruction entre tes frontières. Ô Sion, si longtemps affligé, abattu de la tempête et non consolé, regarde, je poserai tes pierres avec des couleurs splendides et tes fondements avec des saphirs. Je ferai tes fenêtres d'agate et tes portes d'escarboucles et toutes tes frontières de pierres précieuses. Surgis et brille, car ta lumière est venue. » Lorsque le tintement des chaînes des encensoirs avait résonné dans le grand silence, l'énorme foule était tombée à genoux et était restée dans cette attitude pendant que la fumée montait en spirale des mains des anciens prêtres qui officiaient. Puis, l'orgue avait commencé à rugir et l'immense chœur massé dans les transepts avait déroulé l'antienne, interrompu seulement par un cri de fureur qu'avait poussé sans doute quelques catholiques affolés. Et dès l'instant suivant, l'auteur de ce cri sacrilège avait été mis en pièces. Tout cela était incroyable, profondément incroyable, se disait Percy. Mais ce que l'on ne pouvait pas croire était arrivé. Et l'Angleterre, une fois de plus, avait retrouvé sa foi et son culte, ce couronnement nécessaire de toute vie normale. Des provinces, les mêmes nouvelles affluaient. Toutes les cathédrales avaient vu se produire les mêmes scènes. La statue de Markenheim avait été reproduite 4000 fois en 2 jours, et chaque centre important en avait reçu un exemplaire. Partout, le mouvement nouveau avait été accueilli avec enthousiasme, et Percy songeait que, vraiment, si Dieu n'avait pas existé, il aurait été indispensable d'inventer un Dieu. Le cardinal s'émerveillait aussi de l'extrême habileté avec laquelle ce culte nouveau avait été formulé. Son rituel ne pouvait donner lieu à aucune discussion. Aucune divergence d'opinion politique ne pouvait enrayer son succès. La vie était l'unique source et l'unique principe de la religion naissante. La vie était l'unique source et l'unique principe de la religion naissante. La vie revêtue des robes splendides du culte ancien. On avait mentionné le nom d'un Allemand comme auteur de ce rituel, mais personne n'ignorait que toute l'idée était venue de Felsenburgh. C'était un catholicisme sans christianisme, une divinisation admirable de l'humanité. L'objet de l'adoration n'était point l'homme, mais l'idée de l'homme, privée simplement de son élément surnaturel. Le sacrifice lui-même était reconnu, l'offre volontaire de soi, répondant à l'un des instincts fonciers de notre nature, mais sans aucun caractère de contrainte, sans l'ombre d'une expiation imposée par un pouvoir transcendant à la culpabilité originelle de l'homme. Au total, se disait Percy, tout cela était absolument aussi intelligent et adroit que Satan, et absolument aussi vieux que Caïn. L'avis que le cardinal avait donné au Saint-Père tout à l'heure, il ne savait point si c'était un avis de désespoir ou d'espérance. Il avait conseillé la promulgation d'un décret rigoureux interdisant formellement aux catholiques tout acte de violence. Suivant lui, les fidèles devaient être encouragés à rester patients et à se tenir complètement à l'écart du culte nouveau, à ne rien dire s'ils n'étaient pas interrogés et seulement à souffrir avec joie les peines encourues. Et Percy et plusieurs autres cardinaux avaient demandé que le pape les autorisât à rentrer, pour quelque temps, chacun dans son pays, afin d'encourager ceux qui hésitaient. Mais le pontife avait répondu que leur mission était de rester à Rome, sauf le cas de graves événements imprévus. Quant à Fessenburg, les nouvelles qu'on en avait étaient de nouveau très rares. On disait qu'il se trouvait en Orient, mais tout autre détail était tenu secret. En tout cas, il apparaissait que le président avait l'intention de ne point prendre part à la vie politique, sauf pour suggérer, de temps à autre, d'importantes mesures dont il remettait l'exécution aux divers gouvernements nationaux. Ainsi, le cardinal songeait, sur sa chaise de paille, les yeux fixés sur la Sainte Rome telle qu'elle apparaissait de sa fenêtre à travers la brume automnale. Il se demandait combien de temps encore durerait la paix. Mais dès à présent, il avait l'impression que l'air s'obscurcissait d'heure en heure et que l'inévitable catastrophe qu'il pressentait n'attendait plus que l'occasion la plus insignifiante pour se déchaîner. Enfin, il sonna. « Donnez-moi la dernière lettre du père Blackmore, » dit-il à son secrétaire. Percy n'avait jamais oublié les fines et pénétrantes remarques du père Blackmore pendant leur séjour commun à Westminster. Et l'un de ses premiers actes, comme cardinal protecteur d'Angleterre, avait été d'inscrire son ancien collègue sur la liste des correspondants anglais. Il avait reçu de lui, déjà, une douzaine de lettres, dont aucune n'avait été sans contenir son grain d'or. Mais surtout, il avait observé que toutes ces lettres exprimaient la crainte que, tôt ou tard, il n'y eût un acte de provocation ouverte de la part des catholiques anglais. Et c'est précisément le souvenir de cette crainte qui avait inspiré Percy dans ses véhémentes instances auprès du pape tout à l'heure. De même qu'au temps des persécutions romaines, durant les trois premiers siècles, de même à présent, le plus grave danger pour la communauté catholique n'était point dans les mesures injustes du gouvernement, mais dans le zèle irréfléchi des fidèles eux-mêmes. Le monde ne désirait rien tant que d'avoir une occasion, un prétexte, pour lever son épée, déjà à demi tirée du fourreau. Lorsque le jeune secrétaire lui eut apporté les quatre feuillets couverts de la petite écriture tassée du père Blackmore, Percy relut tout de suite le dernier paragraphe. L'ancien secrétaire de M. Brandt, M. Phillips, que votre éminence m'avait recommandé, est venu me voir deux ou trois fois. Il se trouve dans un état des plus curieux. Au fond du cœur, il n'a aucune foi, mais intellectuellement, il ne voit d'espérance nulle part que dans l'Église catholique. Il a même sollicité d'être admis dans l'ordre du Christ crucifié, ce qui, naturellement, est impossible. Mais sa sincérité ne saurait faire aucun doute, car s'il n'était pas sincère, il n'hésiterait pas à professer le catholicisme. Je l'ai mis en rapport avec plusieurs bons catholiques, dans l'espoir qu'ils pourraient le secourir moralement. Je serais très heureux que votre éminence puisse causer avec lui. Avant de quitter l'Angleterre, Percy avait poursuivi la connaissance qu'il avait faite, dans des conditions singulières, de l'ancien secrétaire d'Olivier Brandt. Et sans trop savoir pourquoi, il avait recommandé M. Phillips au père Blackmore. Non pas qu'il eût été particulièrement frappé du caractère de ce Phillips, qui lui avait semblé une créature hésitante et timide, mais il n'avait pu s'empêcher de trouver extraordinaire le désintéressement avec lequel cet homme avait brisé sa position. Et maintenant, un désir lui était venu de l'appeler près de lui. Peut-être l'atmosphère spirituelle de Rome achèverait-elle de lui rendre la foi. « Monsieur Brandt, » dit-il à son secrétaire, qu'il avait rappelé de nouveau, « veuillez faire savoir au père Blackmore qu'en effet, je serais très heureux de voir ici Monsieur Phillips, qu'il m'a proposé de m'envoyer. Mais rien ne presse. Que ce monsieur ne vienne pas avant janvier, sauf pour un motif urgent. » » Le développement de l'ordre du Christ crucifié s'était poursuivi avec un succès presque miraculeux. La proclamation du Saint-Père avait été, à travers tout le monde chrétien, comme une étincelle dans la paille. C'était comme si ce monde chrétien eût atteint exactement le point de tension où une organisation nouvelle de ce genre était nécessaire. Et la réponse à l'appel du pape avait étonné même les plus optimistes. En fait, toute la ville de Rome, avec ses faubourgs, 3 millions de personnes au moins, avait couru s'inscrire à Saint-Pierre, comme une foule affamée se précipite vers un repas, ou des marins désespérés vers l'abri d'une rade. Pendant plusieurs journées, le pape lui-même était resté assis, trônant sous l'autel de la basilique, glorieuse et rayonnante figure donnant sa bénédiction, tour à tour, avec un beau geste muet, à chacun des membres de la multitude infinie qui accourait vers l'autel, au sortir de la communion, pour s'agenouiller devant le supérieur de l'ordre et baiser son anneau. Chaque postulant était obligé d'aller se confesser à un prêtre désigné, qui examinait strictement ses motifs et sa sincérité, de telle sorte qu'une moitié seulement avait été acceptée. Encore cette proportion était-elle infiniment plus grande à Rome que dans la chrétienté. Car on ne doit pas oublier que, des 3 millions de postulants romains, près de 2 millions avaient subi l'exil pour leur foi, préférant une vie obscure et méprisée, sous l'ombre de Dieu, à la gloire sacrilège de leur pays infidèle. Le cinquième soir de l'enrôlement des novices, un incident pathétique s'était produit. Le vieux roi d'Espagne, le second fils de la reine Victoria, déjà sur le bord de la tombe, s'étant agenouillé devant le pape, avait chancelé au moment où il s'apprêtait à se relever. Et le pape lui-même, d'un mouvement soudain, s'était levé de son trône, l'avait saisi et tendrement embrassé. Puis, toujours debout, le vieux pontife avait ouvert ses bras tout au large et prononcé une allocution telle que jamais encore la basilique n'en avait entendue. « Benedictus Dominus », s'était-il écrié, en levant au ciel son visage avec des yeux illuminés d'extase. Que béni soit le Seigneur, car il a visité et racheté son peuple. Moi, Jean, vicaire du Christ, serviteur des serviteurs et pécheur parmi les pécheurs, je vous ordonne d'être de bon courage au nom de Dieu. Par celui qui a été cloué sur la croix, je promets la vie éternelle à tous ceux qui persévéreront dans son ordre. Lui-même l'a dit, « À celui qui surmontera l'épreuve, je donnerai la couronne de vie. » Mes petits enfants, ne craignez point celui qui tue le corps, car il ne peut rien faire au-delà. Jésus et sa Sainte Mère sont au milieu de nous. Ainsi sa voix s'était répandue, parlant à l'énorme foule recueillie, du sang qui déjà avait été versé à l'endroit où elle se tenait, de ce sang de l'apôtre qui les pressait, les encourageait, les vivifiait. Ils étaient voués à la mort, et si la volonté de Dieu n'était pas qu'ils périssent, leur intention serait tenue pour le fait. Ils se trouvaient, désormais, sous l'obéissance, leur volonté n'était plus à eux mais à Dieu, et en échange, à eux appartenait le royaume du ciel. Le pape avait fini par une grande bénédiction muette de la cité et du monde, et il n'avait point manqué là d'une demi-douzaine de fidèles pour voir, affirmait-il, la forme blanche d'un oiseau flottant dans l'air pendant qu'il parlait, blanche et transparente. Les choses qui avaient eu lieu ensuite, dans la ville et dans les faubourgs, ne sauraient être décrites. Des milliers de familles avaient consenti à rompre les liens humains qui les attachaient. Les maris s'étaient dirigés vers les grandes maisons réservées pour eux sur le Quirinal. Les femmes s'étaient fixées sur l'Aventin. Tandis que leurs enfants, également remplis de confiance et d'ardeur, avaient afflué chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul, à qui le pape avait fait donner 3 rues entières pour les recueillir. De toutes parts sur les places, s'élevait la fumée de bûchers où brûlaient des objets de luxe, désormais rendus inutiles par le vœu de pauvreté, et sacrifiés avec joie par leurs possesseurs. Et de jour en jour, de longs trains partaient des stations, en dehors des remparts, emportant les troupes joyeuses et enthousiastes de ce que le Saint-Père avait daigné déléguer pour être le sel de la terre, le levain destiné à transformer le monde infidèle. Et partout, ce monde infidèle avait salué leur venue d'un rire où se mêlait déjà une ombre de fureur. Cependant, de la chrétienté tout entière étaient arrivées des nouvelles heureuses. Les mêmes précautions qu'à Rome avaient été prises dans toutes les villes pour l'admission des membres de l'ordre. Mais sans cesse, les bureaux du Vatican recevaient de nombreuses listes de personnes décidément admises. Et durant la semaine qui précédait le moment présent de notre histoire, d'autres listes aussi étaient arrivées au Vatican infiniment glorieuses et touchantes. Non seulement les évêques rapportaient que déjà, dans tous les pays, l'ordre du Christ avait commencé son œuvre, que déjà des communications longtemps interrompues se trouvaient rétablies, qu'une foule de missionnaires s'organisait activement et que les cœurs les plus désespérés, une fois de plus, renaissaient à l'espoir. Par-dessus tout cela, le Vatican avait revu déjà la nouvelle de triomphe d'une espèce plus haute, remportée par les chevaliers du Christ crucifié. À Paris, 40 de ces chevaliers avaient été brûlés vifs en quelques heures au Quartier Latin avant que la police pût intervenir. D'Espagne, de Hollande, de Russie étaient venus d'autres noms de martyrs. À Düsseldorf, 18 jeunes gens et enfants, surpris pendant qu'ils chantaient matine dans l'église Saint-Laurent, avaient été jetés, l'un après l'autre, dans les égouts municipaux, chacun chantant, à très haute voix, jusqu'à l'instant suprême. Christe fili Dei vivi, miserere nobis. Et des ténèbres de l'égout s'était élevé encore le même chant, jusqu'à ce que la foule l'eût étouffé à coups de pierre. Dans le même temps, les prisons allemandes étaient toutes encombrées de la première fournée des chrétiens réfractaires. Sur quoi le monde haussait les épaules et déclarait que ces pauvres diables s'étaient spontanément attirés leur sort. Tout en ne laissant point de blâmer la violence des foules et en sommant les autorités de ne point permettre que le peuple leur enlevât le soin de châtier la nouvelle conspiration de l'idolâtrie. Et du matin au soir, dans l'église Saint-Pierre, les ouvriers travaillaient à installer les longues rangées des autels nouveaux, clouant sur les murs des diptyques de pierre où étaient gravés les noms de ceux qui avaient, déjà, accompli leurs vœux et gagné leur couronne. C'étaient les premiers mots de la réponse de Dieu à la provocation du monde. Aux approches de Noël, il fut annoncé que le souverain pontife chanterait la messe lui-même, le dernier jour de l'année, devant l'autel pontifical de Saint-Pierre, à l'intention de l'ordre du Christ, et déjà les préparatifs avaient commencé pour cette cérémonie. Celle-ci devait être une sorte d'inauguration publique de la nouvelle entreprise, et l'on savait qu'une convocation spéciale avait été adressée à tous les membres du Sacré Collège, dans le monde entier, exigeant leur présence à Rome pour le 31 décembre, sauf empêchement par maladie. Le pape, évidemment, avait dessein de faire comprendre au monde que la guerre était déclarée. Et l'on vit à Rome, cette année-là, une fête de Noël tout à fait extraordinaire. Percy avait reçu l'ordre de servir l'une des messes du pape, après avoir dit lui-même ses trois messes à minuit dans son oratoire privé. Pour la première fois de sa vie, il put assister à un spectacle dont il avait bien souvent entendu parler. La merveilleuse procession pontificale, à la lueur des torches, traversant Rome depuis le Latran jusqu'à Sainte-Anastasie, où le pape venait de restaurer la coutume ancienne, abandonnée depuis près de 150 ans. La petite basilique était naturellement réservée au nombre très restreint des privilégiés. Mais les rues, sur tout le parcours depuis la basilique et toute l'énorme place du Latran, n'étaient qu'une masse opaque de têtes silencieuses et de torches flamboyantes. Le Saint-Père était accompagné à l'autel, comme d'habitude, par les souverains, et Percy, de sa place, considérait le drame céleste de la passion du Christ joué, sous le voile de sa nativité par les mains de son vieux vicaire angélique. En effet, à peine pouvait-on retrouver là une trace de la tragédie du calvaire, c'était bien l'atmosphère de Bethléem, l'illumination céleste, et non point la ténèbre surnaturelle qui rayonnait autour du simple autel de Sainte-Anastasie. C'était l'enfant prodigieux qui reposait dans les vieilles mains du pontife, plutôt que le corps meurtri de l'homme des douleurs. Adeste fideles, chantait le chœur dans la tribune. Venez, accourons tous et pour adorer, non point pour pleurer. Exultons, réjouissons-nous, soyons nous-mêmes pareils à des enfants. Comme Jésus, pour nous, est devenu un enfant, à notre tour devenons des enfants pour lui. Revêtons les robes de l'enfance et chaussons les souliers de la paix. Car le Seigneur a régné, il est vêtu de beauté, le Seigneur est revêtu de force et s'est entouré les reins d'une ceinture. Il a établi le monde qui ne sera point enlevé. Son trône est préparé depuis longtemps. Il existe depuis l'éternité. Donc, réjouis-toi grandement, ô fille de Sion, crie de joie, ô fille de Jérusalem, car voici que vient vers toi ton souverain, le seul saint, le seul sauveur du monde. Et de souffrir ensuite, il en sera temps encore, lorsque le prince de ce monde viendra attaquer le prince du ciel. Ainsi rêvait le cardinal, tâchant à se rendre lui-même petit et simple, dans tout l'éclat de sa pompe de cour. Certes, songeait-il, rien n'est difficile pour Dieu. Pourquoi cette naissance mystique ne réussirait-elle pas à faire une fois de plus ce qu'elle a fait jadis, à soumettre par la force de sa faiblesse tous les orgueils qui s'exaltent au-dessus de Dieu? Cette naissance, jadis, a attiré de sages rois à travers le désert, en même temps qu'elle forçait des bergers à quitter leurs troupeaux. Aujourd'hui, voici qu'elle a des rois autour d'elle, agenouillés avec le pauvre et le faible, des rois qui ont déposé leur couronne et lui ont apporté l'or des cœurs loyaux, la myrrhe du martyr désiré et l'encens d'une pure foi. Ne se pourrait-il point que les républiques, elles aussi, déposassent leur splendeur, que les foules enragées devinssent apprivoisées, que l'égoïsme se renonça et que la prétendue science fit enfin l'aveu de son ignorance? Mais tout à coup, Percy se rappela Felsenburgh et son cœur défaillit d'épouvante dans sa poitrine. 6 jours après, Percy se leva, comme d'ordinaire, dit sa messe, déjeuna et s'assit pour réciter son office jusqu'au moment où son domestique l'amènerait s'habiller pour la messe pontificale. Il était maintenant si habitué à recevoir de mauvaises nouvelles, d'apostasie, de mort, de déchaînement populaire, que le repos de la semaine précédente lui avait apporté un réconfort merveilleux. Il lui semblait que ses rêveries de Sainte Anastasie s'étaient trouvées plus vraies qu'il n'avait pensé, et que la douceur de l'antique fête n'avait pas encore entièrement perdu son pouvoir. Car presque rien d'important n'était arrivé. Quelques nouveaux martyrs s'étaient produits, mais par cas isolés, et de Felsenburgh, on n'avait absolument rien su. Nulle part, le président de l'Europe ne s'était montré, confiné, disait-on, dans un coin de l'Orient. D'un autre côté, Percy n'oubliait point que la journée du lendemain serait d'une portée extraordinaire, tout au moins en Angleterre et en Allemagne, car en Angleterre, cette journée devait voir la première application de la loi rendant le culte obligatoire, tandis qu'en Allemagne, la loi devrait être appliquée déjà pour la deuxième fois. Hommes et femmes, les deux nations entières auraient à se déclarer pour ou contre la religion nouvelle. Le cardinal avait reçu de Londres, quelques jours auparavant, une photographie de l'image qui allait être adorée le lendemain dans l'abbaye de Westminster. Il l'avait déchirée en morceaux dans un accès de dégoût et d'indignation. La statue représentait une femme nue, grande et majestueuse, la tête et les épaules rejetées en arrière, dans l'attitude d'une personne qui contemple une vision, les bras étendus et les mains un peu soulevées, avec une expression totale d'attente, d'espérance, de ravissement. Et l'artiste, par une ironie diabolique, avait couronné ses longs cheveux de 12 étoiles. Cette figure était la contrepartie de l'autre, l'incarnation de la maternité idéale de l'homme. Et Percy, foulant aux pieds les morceaux blancs de l'image, répandus sur les dalles comme une neige empoisonnée, s'était élancé vers son prie-Dieu et s'y était laissé tomber avec un désir passionné de réparation.
C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre, de Robert Hugues Benson. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagallier. Une émission disponible en podcast sur kateoradio.com et sur l'application KTO Radio. KTO Radio.
Fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le par votre chant. Il est fidèle et tout puissant. Que mon âme et que tout mon être loue sans fin, loue sans fin. Que mon âme et que tout mon être loue sans fin.
Écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Nous voici déjà bien avancés sur le chemin du carême. Durant le temps du carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets dans l'aumône qui est un partage avec les autres, la prière et le jeûne, pour nous aider à discerner sur ce qui est essentiel à notre vie. Nous sommes appelés à constituer notre trésor dans le ciel, car là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Comment est-ce que je vis ce temps de carême dans ma vie professionnelle ? En tant qu'entrepreneur et dirigeant chrétien, on est appelé à vivre notre unité. Tout d'abord, notre unité entre notre vie spirituelle et notre vie professionnelle. C'est clairement plus facile à dire qu'à faire. Nous avons une richesse qui nous sert de socle, dans la mise en action de notre foi. Cette richesse est la pensée sociale chrétienne, avec ses six principes. Le tout premier pilier est la dignité humaine, qui est aussi essentielle dans le monde du travail. L'entreprise est un écosystème social de relations entre les personnes qui, pour fonctionner, doit être basé sur le respect de l'autre. Dans Laborem Exercens, Jean-Paul II nous rappelait que c'est en tant que personne que l'homme est sujet au travail. Il accomplit des actions appartenant au processus de travail et ces actions doivent toutes servir à la réalisation de son humanité, à l'accomplissement de la vocation qui lui est propre en raison de son humanité même. C'est celle d'être une personne. Dans le monde d'entreprise, il est essentiel pour moi d'adosser les relations fournisseur-client, interne ou externe, à une relation de personne à personne. Avant d'avoir un rôle, un titre ou une fonction, moi, je suis. Je suis une personne avec mes talents, mes expériences, mes forces et aussi mes faiblesses, qui rencontre d'autres personnes, toutes uniques. La première forme de reconnaissance et de dignité est le regard que je pose sur l'autre et sur son travail. Dans la pensée sociale chrétienne, la dignité est une question de justice. Donner à chacun ce dont il a besoin pour accomplir son travail. Parfois, c'est plus simple de donner l'information afin que la personne puisse avancer au lieu de la retenir. Cette justice, c'est aussi notre devoir de stimuler et développer des personnes d'une manière ajustée. Si on prend le contexte commercial, la question qu'on peut se poser sous l'angle de dignité humaine est comment est-ce que je stimule, motive d'une manière équilibrée les capacités de compétition versus celles de coopération de mon équipe. Dans mon cabinet, j'interviens auprès des clients pour structurer des directions financières. Sujet certes passionnant, mais souvent très sensible. Le droit à l'information nécessite de poser des mots justes sur la situation réelle et d'expliquer ce qui peut fonctionner et ce qui ne risque pas de fonctionner dans le contexte de cette entreprise. Après le mot, on doit poser les actes. Et c'est le travail avec chaque interlocuteur pour l'accompagner de là où il se trouve vers là où il faut qu'il avance afin que l'ensemble puisse fonctionner. La résistance au changement est quelque chose de naturel et les tensions se révèlent. M'attacher à la dignité est essentiel pour ouvrir le dialogue et maintenir un rythme de travail. En tant qu'humain, on se réalise par le travail, c'est-à-dire en action, pas juste en parole. En tant que membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on œuvre pour mettre en pratique le principe de la pensée sociale chrétienne. Ce sont bien des principes qui viennent de principium, c'est-à-dire point de départ, commencement. La mise en place de ces principes ne se décrète pas. Ça s'est construit, comme le carême. C'est tout un chemin basé sur le partage et la prière. Bonne route vers Pâques et à bientôt.
Tiny baby, in his hands he's got the whole world in his hand. He got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole. In his
hands, he's got the whole world in his hands. He got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He got everybody here in his hands. He's got everybody here in his hands. He's got everybody here in his hands. He got the whole.
Écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Bonjour. Comment, dans la cité d'Éphèse, véritable mégapole de 100 000 habitants, Paul, serviteur du Christ crucifié, peut-il mettre en péril la renommée de la grande déesse Artémis et de son temple colossal, quatre fois le Parthénon, somptueusement décoré, lieu d'asile, classé au nombre des sept merveilles du monde? Certes, l'apôtre a su tirer le meilleur parti de la situation géographique et politique de la cité. Il prend soin de la communauté chrétienne, il enseigne, il écrit des lettres, il organise des équipes qu'il envoie vers les communautés de Grèce ou d'Asie. Il veille à la diffusion de la bonne nouvelle dans les environs, notamment à Colosse. Justement, devant ce rayonnement de l'Évangile qu'il juge menaçant, Démétrios, le chef de la corporation des orfèvres, prend les devants et s'emploie à persuader ses associés que Paul est en train de ruiner la profession. Sa démarche est bien accueillie, car tous, orfèvres qui fabriquent des statuettes à l'effigie de la déesse, marchands de viande pour les sacrifices, marchands de peaux d'animaux, tous tirent de juteux profit du temple et n'entendent pas qu'un individu venu de Tarse s'immisce dans leur commerce. Démétrios réussit à enflammer le plus de monde possible, au point que pour défendre la renommée de la déesse dont la cité d'Éphèse est la gardienne, la foule se rassemble dans l'immense théâtre d'une capacité de 24 000 places, à la fois lieu de culture et de manifestation politique. La foule prend même en otage deux compagnons de Paul, Gaius et Aristarque. Paul, accusé de sacrilège ou d'impiété, voudrait se présenter devant l'Assemblée. Cependant, des croyants et des responsables politiques et religieux de la province romaine d'Asie l'en dissuadent. En revanche, Balbius, ardent défenseur de l'Artémis, ancien préfet d'Égypte, responsable d'une sanglante répression contre les Juifs d'Alexandrie, n'a aucun scrupule à livrer Paul à la vindicte de la foule. Il la travaille de sorte qu'elle rende les Juifs responsables de cette situation. Entreprise facile. Ainsi, à l'intervention d'un certain Alexandre, la foule, sachant qu'il est juif, fait obstruction en hurlant « Grande est l'Artémis des Éphésiens ». C'est toujours par acclamation qu'une assemblée fait connaître son opinion. Il n'en faut pas davantage pour que le président de l'assemblée prenne peur. Au nom de la loi romaine, il s'empresse d'innocenter Paul. Puis, il se retourne contre la foule en la menaçant. Elle n'a plus de motif pour se rassembler. Elle tombe donc sous le coup d'une accusation de sédition. Prise de panique à son tour, elle se disperse sans tarder. Pour cette fois, Paul échappe à la prison. Mais ce n'est que partie remise. Quelque temps plus tard, il sera emprisonné et jeté aux bêtes. À bientôt.
When Jesus was,
he washed my sins.
écoutez KTO Radio, il est 14h.
Bonjour à tous et merci de nous retrouver comme chaque semaine sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le père Benoît Pouzin. Bonjour père.
Bonjour, bonjour à tous les spectateurs.
Alors pour les plus jeunes d'entre nous, votre nom et votre visage ne sont pas inconnus. Vous êtes le frère aîné de Glorious, le groupe de pop louange que vous avez contribué à lancer. Nous allons reparler dans un instant ainsi que de votre vocation à la prêtrise en lien avec un livre que vous venez de publier aux éditions de l'Emmanuel, « Je fais le plus beau métier du monde ». Juste avant, je vous invite à nous chanter quelque chose.
Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré.
Merci Père. Alors vous êtes dans la joie ?
Oui, tout à fait, je suis dans la joie. Je suis dans la joie d'être ici pour cette émission. Et justement, j'ai écrit un livre où le but, c'est de pouvoir montrer que je suis un prêtre heureux et joyeux, et qu'être un prêtre heureux, ben, c'est possible aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis venu témoigner ici aussi dans cette émission.
Alors en un mot, cette joie, d'où vient-elle ?
Ben pour moi, elle me vient vraiment du Seigneur, dans cette rencontre que j'ai faite avec lui. Spécialement, je raconte comment j'ai vécu finalement cette rencontre plus personnelle avec le Seigneur, tout en sachant que j'ai eu la joie d'être dans une famille chrétienne, pratiquante, et comment j'ai reçu vraiment en fait la foi comme un cadeau. Et comment il y a eu un moment dans ma vie où j'ai fait cette rencontre vraiment personnelle avec le Seigneur, en pleine adolescence, où justement souvent le visage se ferme, où on est face à toutes nos questions, où, voilà, et tout d'un coup, ben, cette rencontre va transformer ma vie. Et vraiment, cela va me permettre vraiment de goûter à cette joie profonde qui, pour moi, depuis l'âge de mes 14 ans, ne me quitte pas. Je suis heureux de vivre, parce que je suis heureux aussi de croire en Jésus-Christ qui me sauve, qui me libère. Et ça, c'est ma joie profonde.
Alors, vous venez d'en dire un mot. Dans votre famille, il y a un moment où il y a quand même quelque chose qui s'est passé et qui a eu un impact sur toute la famille et sans doute sur votre vocation aujourd'hui. C'est votre père qui a peut-être retrouvé le Seigneur à un moment ?
Tout à fait. En fait, mes parents, quand ils sont mariés, ils ont eu pour habitude, parce que c'était une habitude, en fait, ils le disent eux-mêmes, d'aller à la messe tous les dimanches. Mmh. Comme aujourd'hui, les gens vous diraient, ben, moi, je vais à la messe pour Noël ou pour Pâques. Ils y allaient tous les dimanches, mais ils n'avaient aucun engagement d'église, ils n'avaient aucune vie spirituelle, aucune vie de prière. Et ça, je l'ai su bien après, d'ailleurs, même après ma propre conversion, un soir, mon père a le désir de prier. Et alors, lui reviennent en souvenir et en mémoire toutes les fois où il a prié, spécialement quand il était jeune, en pension ou en famille. Et donc, il se met dans sa chambre face au crucifix, il se met à genoux. Et là, il se met à prier, il va vivre vraiment une expérience tout à fait particulière, une rencontre personnelle avec le Christ, et qui là va aussi transformer sa vie et son quotidien. Et à cette époque-là, moi j'ai 4 ans, et ça va aussi transformer bien sûr toute l'histoire de notre vie de famille aussi, d'une certaine manière.
La maman va suivre au bout d'un moment ?
Maman derrière ? Pas tout de suite ? Pas tout de suite, mais tout doucement. Alors c'est très beau, parce que ça dit aussi vraiment que c'est l'événement marquant de la vie de mon père, mais c'est vraiment en couple qu'ils vont vivre ça. Ma mère, elle va suivre tout doucement, tranquillement, mais avec la même force, la même énergie, avec son caractère, avec ce qu'elle est. C'est vraiment en couple qu'ils vont vivre vraiment cette expérience spirituelle et qui vont donc par conséquent aussi nous donner cette...
Nous, c'est 4 garçons plus 2 filles.
Exactement, je suis aîné de 6 enfants.
Belle fratrie.
Belle fratrie, exactement. Il y a mon frère après moi, Aurélien, qui est marié avec Céline, ils ont 5 enfants. Mm-hmm. Benjamin, qui est marié avec Claire, ils ont 4 enfants. Ensuite, il y a Thomas, qui est fiancé avec Marine. Et puis, j'ai 2 petites sœurs, Amélie et Alice. Et Alice, qui s'est fiancée d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc 9 neveux et nièces. Une belle famille, en effet.
Alors, Pouzin, Glorious. Mmh. Voilà.
Bien sûr.
Donc, la musique était déjà présente dans la famille depuis un petit moment ?
En fait... Elle était présente par l'intermédiaire de mes parents, spécialement mon père qui faisait de la guitare. Et c'est vrai que tous nos temps de prière en famille, mon père prenait souvent sa guitare et on louait le Seigneur, on chantait. D'ailleurs, il animait la messe. Maman on faisait un peu de piano et puis chantait. Ils chantent tous les deux, ils chantent juste d'ailleurs. Mmh. Et en fait, comme je suis l'aîné, l'événement un peu fondateur de l'avenue vraiment de la musique dans la famille... C'est un jour, mes parents nous ont emmenés, moi j'avais à peu près 11-12 ans, à un concert de rock chrétien. Et là, ça a été pour moi une révélation, parce que j'ai posé mes yeux sur le batteur qui était là, et à ce moment-là, je me suis dit, c'est cet instrument que je veux faire.
C'était quoi comme groupe ?
Alors, il s'appelait Nouvelle Alliance, c'était un groupe issu de la communauté d'Emmanuel. C'était vraiment les premiers groupes, il y avait eu Tous aussi, mais vraiment les tout premiers groupes de rock chrétien.
Et là, Révélation, c'était quoi ? C'était...
Révélation, c'est-à-dire que déjà, j'avais à cœur, quelque part, de connaître un peu plus cet instrument, mais je n'avais jamais eu l'occasion de voir vraiment une batterie pour de vrai.
J'aimais... Sauf dans la cuisine.
C'est ça, avec les casseroles de maman, ce qu'elle aimait beaucoup d'ailleurs. exactement, et d'ailleurs, en voyant ce batteur, il a bien fallu... que je construise moi-même ma propre batterie, puisque comme j'ai voulu faire la batterie, mes parents m'en ont pas offert une du jour au lendemain. Oui. Donc par conséquent, il a fallu que je crée ma batterie avec des cartons, avec les casseroles de ma
Donc,
chère
Donc beaucoup
maman.
De souffrance dans la famille à cette période-là.
Horrible. Donc souvent, dans la cave, mes parents descendaient pour me faire comprendre à travers ce geste, je crois que ça veut dire qu'il fallait arrêter. Mmh. Voilà. Et donc, par conséquent, c'est vrai qu'ils m'ont pas vraiment... influencé dans le sens où il fallait que je joue de la batterie toute la journée. C'était plutôt arrête, stop. Mais moi, j'écoutais ma musique, mais il ne m'empêchait pas pour autant d'en faire. Et puis, à la suite de ça, mon frère Aurélien s'est mis à la guitare, aidé bien sûr de mon père qui lui a appris ses premiers accords. Puis Benjamin a suivi, puis mon petit frère Thomas au piano. Et puis, c'est comme ça que finalement, la musique est arrivée dans la famille. Mais avant de créer vraiment Glorious, moi, j'ai fait aussi partie